À plusieurs reprises, dans les dernières rencontres, nous avons croisé la question de la souffrance et de la mort. La dernière fois, nous en avons parlé pour parler de l'après, hein, la vie éternelle après la vie terrestre. Mais aussi lorsque nous avons parlé de la création, du péché et de ses conséquences dans le monde. C'est une question qui est aussi très liée à la vie de Jésus. Car le cœur du mystère pascal, c'est son offrande d'amour dans sa passion. Le lieu, le moment où il affronte directement ce mystère de la souffrance. Et nous avons déjà dit et redit que tout cela prenait du sens dans le mystère de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. La souffrance est cependant souvent un obstacle à la foi, un scandale intellectuel. Nous avons à l'esprit une notion claire du bien et du mal et des exigences de la justice. Nous pouvons faire facilement un lien entre le mal physique et le mal moral. On peut bien concevoir qu'un mal moral, un péché, puisse avoir des conséquences physiques, une douleur par exemple, ça satisferait à la justice. Mais lorsque nous regardons le monde tel qu'il fonctionne, nous sentons que tout cela est dissocié. Il n'y a pas de justice ici-bas. Il y a des personnes bonnes qui souffrent, des innocents qui souffrent. Il y a des personnes perverses qui semblent prospérer. Le mal et la souffrance sont partout disséminés, sans qu'on voie de cohérence ou de justice. Et ça peut poser scandale, poser question. La vraie justice, elle se trouvera dans le monde à venir, celui dont nous avons parlé la dernière fois, après le jugement dernier, dans le monde nouveau. Tant que nous sommes ici-bas, dans cette étape de l'histoire et du cosmos, nous devons assumer dans notre foi ce mystère de la souffrance avec son lot de paradoxes. Nous voulons tenir ensemble ces différents éléments. Dieu existe, il est vraiment tout puissant, sa bonté est infinie et il permet que la souffrance existe. Dans ces éléments, nous sommes parfois tentés de mettre l'un ou l'autre en question pour faciliter notre compréhension intellectuelle, mais en tant que chrétiens, nous allons essayer de tout tenir. Certains peuvent douter de l'existence de Dieu, c'est ce que propose l'athéisme, mais je crois que dans le monde qui nous entoure, c'est plutôt une forme d'agnosticisme qui règne, c'est-à-dire on pense qu'il y a peut-être un Dieu, mais finalement on ne sait pas trop qui il est. Est-ce qu'il est vraiment bon? Est-ce qu'il est vraiment tout-puissant? Je pense que les doutes sont plutôt de ce côté-là dans notre société. Alors nous, chrétiens, nous croyons, oui, que Dieu est tout-puissant. Sa capacité de faire ce qu'il veut, il l'a mise en œuvre dans la création. Il a tout fait à partir de rien. C'est sa puissance qui maintient tout dans l'existence. Par notre imagination, nous essayons parfois de concevoir d'autres mondes possibles. C'est une inspiration pour la littérature, cette invention. Mais il faut avouer que nous ne pouvons pas comprendre tous les ressorts logiques de cette œuvre de la création. Nous ne pouvons pas nous mettre vraiment à la place de Dieu. Nous avons déjà soulevé un petit peu ce problème. La révélation nous indique clairement que la souffrance est entrée dans le monde des hommes à cause du péché originel. Dans le projet initial, l'ordre initial du monde, l'homme en était préservé et pouvait le rester. Le projet de Dieu sur l'histoire aurait pu se réaliser dans un monde innocent. Mais ce monde-là a disparu. Et nous ne savons pas s'il aurait pu continuer malgré le péché. Car le péché a introduit une brisure dans la relation avec Dieu, mais aussi une brisure dans la relation avec soi-même. L'homme a refusé ce pour quoi il était créé. Il a refusé sa vocation profonde. Ces brisures intimes ont eu un impact extérieur en brisant la relation entre l'homme et le monde également. Et finalement, toute l'histoire a été impactée par ce désordre. C'est comme cela que la révélation nous présente ce mystère de la souffrance dans notre histoire. Dieu aurait-il pu créer un monde où le péché n'ait aucun impact? On peut se poser la question. Il a donné une liberté réelle à l'homme, mais si les actes de l'homme n'avaient aucun impact réel, aucune conséquence, quel sens cette liberté aurait-elle eu? Face à ce mystère, la foi nous invite à faire confiance au Seigneur, qui n'est pas seulement tout-puissant, mais aussi bon. Si un monde était possible, où le péché aurait eu moins de conséquences néfastes, eh bien c'est certainement ce monde-là qu'il aurait créé. Je pense que lorsque nous regardons Jésus, Jésus en qui Dieu est personnellement en prise avec le drame de la souffrance, eh bien nous pouvons être sûrs que ce monde-ci est le moins pire, parce que Dieu n'est pas sadique ni masochiste. Voilà, il a connu ce mystère directement et voilà. Je pense que voilà, il n'y a pas de jeu dans sa manière de créer. Lorsque nous doutons de la bonté de Dieu, il faut aussi s'interroger sur quelle image de Dieu nous avons dans l'esprit. Si nous imaginons Dieu comme un papy gâteau, hein, qui donne tout ce qu'il veut, tout ce qu'ils veulent les petits enfants, hein, évidemment il y a un problème de représentation. Hein. Dieu n'est pas gentil, il est bon. Et la bonté, c'est autre chose. C'est chercher le vrai bien de l'autre. Dans la bonté du Seigneur, il y a donc toujours une dimension d'exigence, de correction, de purification. Dieu permet parfois que nous souffrions pour nous transformer, pour nous faire grandir. Et nous croyons que Dieu ne permet le mal qu'en vue d'un bien qu'il peut en tirer. Je cite saint Paul aux Romains. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ce bien, il ne va pas advenir nécessairement, hein, parce que la liberté de l'homme est toujours en jeu, hein, mais nous croyons qu'il y a toujours un bien qui peut sortir d'un mal. Hein, sinon Dieu, dans sa providence, ne l'aurait pas permis. La souffrance est une secousse qui invite l'homme à se décentrer de lui-même pour se tourner vers Dieu. C'est ça la conversion que Dieu attend de nous. Mais aussi pour se tourner vers les autres, dans la découverte de la compassion qui permet de faire un lien entre ce que nous vivons et ce que vivent les autres. Même s'il y a certainement des cas où la souffrance entraîne à certaines personnes de se refermer sur elles-mêmes, c'est un risque. Mais dans le projet de Dieu, c'est au contraire de s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à Dieu. Alors pour revenir justement à cette bonté de Dieu, l'image la plus utilisée dans la Bible pour dire notre relation à lui, c'est l'image du Père. Dieu est à notre égard comme un Père vis-à-vis de ses enfants. Des enfants qui ne sont pas très doués, des enfants qui sont même des rebelles, car la blessure du péché, la concupiscence, veut toujours nous entraîner loin de Dieu. Donc nous sommes toujours en guerre contre Dieu, finalement, quelque part. Et pourtant, Dieu nous poursuit de son amour de Père. Je cite la lettre aux Hébreux qui développe cette image. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Si vous êtes privé des leçons que tous les autres reçoivent, c'est que vous êtes des bâtards et non des fils. D'ailleurs, nos parents, selon la chair, nous faisaient la leçon et nous les respections. Ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre au Père de nos esprits pour avoir la vie ? Les leçons que nos parents nous donnaient, en croyant bien faire, n'avaient qu'un effet passager. Mais celles de Dieu sont vraiment pour notre bien. Il veut nous faire partager sa sainteté. Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci porte un fruit de paix et de justice. La souffrance que Dieu permet dans notre vie est un mystère pour chacun. Mais pour nous les croyants, elle prend sens dans cette relation avec notre Père. Dans la foi, nous savons que tout ce qu'il permet entre dans son projet éducatif à notre égard. C'est toujours sa bonté qui est à l'œuvre, qui nous connaît et qui proportionne toutes choses selon sa sagesse. Je vais citer saint Paul qui parle de la mesure des épreuves. Dans la première lettre aux Corinthiens, il nous dit « L'épreuve qui vous a atteint n'a pas dépassé la mesure humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. » Face au scandale de la souffrance, il y a encore une autre échappatoire, c'est de nier la souffrance. Et certaines religions proposent de s'en échapper, hein. Peut-être les religions orientales, par exemple, qui promettent un nirvana, un état de libération de la souffrance, un état de béatitude où l'homme n'est plus touché par la souffrance. Mais pour nous, chrétiens, le fait que Jésus vive volontairement sa passion atteste que cette dimension douloureuse de la vie humaine a une profonde dignité. Ce n'est pas quelque chose auquel il faut absolument échapper. Jésus ne cherche pas à échapper à cela. Il ne prend pas cela comme un détail de son histoire. Il ne fait pas le dos rond en attendant la suite. Il n'est pas ressuscité malgré sa passion. Il a vécu pleinement sa passion. Et dans l'épreuve, il a donné sa vie par amour. C'est pour cela que son amour est vainqueur. Jésus a glorifié le Père sur la croix, en exprimant de manière radicale le mystère de l'amour. Jésus n'est pas venu supprimer le mystère de la souffrance, ni même l'expliquer. Il est venu le remplir de sa présence et l'intégrer dans un chemin de vie. Et cela change tout pour nous. C'est désormais le grain de blé semé en terre qui doit mourir pour germer, dans cette image que nous avons eue dimanche dernier dans l'Évangile. Alors, lors des dernières soirées, nous avons observé sous plusieurs aspects notre union à Jésus que réalise l'Esprit Saint. Et il est important de prendre conscience de cette dimension de notre foi, le fait que Jésus s'unit à nous de manière particulière lorsque nous portons notre croix. Il est présent, agissant dans notre passion. C'est lui qui vit, qui souffre en nous, et qui nous donne de faire de notre vie une mystérieuse offrande d'amour unie à la sienne. Nous manifestons également la gloire de Dieu en étant unis à lui sur la croix. Nous sommes témoins de la grandeur, de la profondeur de l'amour divin lorsque nous portons notre croix. Pour exprimer cela, Jésus a même institué un sacrement qui approfondit notre lien à lui dans sa passion. Lorsque nous sommes nous-mêmes sous le poids de notre croix, c'est le sacrement des malades, l'onction des malades, dont nous allons parler justement ce soir dans ce contexte. Alors avant de développer ce sacrement, revenons de manière un peu plus large sur le lien entre Jésus et ce mystère de la souffrance humaine. En Jésus, Dieu a manifesté sa compassion à l'égard de tous ceux qui souffrent. Et dès le début du ministère de Jésus, c'est très clair, ça se voit à toutes les pages de l'Évangile. La compassion du Christ envers les malades et les nombreuses guérisons d'infirmes de toutes sortes sont des signes éclatants que Dieu visite son peuple et que le royaume de Dieu est tout proche. La compassion de Jésus va tellement loin qu'il s'identifie avec ceux qui souffrent. « J'ai été malade et vous m'avez visité », ce qu'il nous dira au dernier jugement. Son amour pour les infirmes s'est prolongé tout au long de l'histoire dans le souci qu'ont cultivé les chrétiens pour soulager la misère, soulager les maladies, pour aider tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. C'est une dimension incontournable de la compassion chrétienne. Nous continuons cette compassion du Christ envers ceux qui souffrent. Lors de sa vie publique, déjà, Jésus n'a pas guéri tous les malades. Ces guérisons étaient des signes de la venue du royaume de Dieu. Ils annonçaient une guérison plus radicale, plus importante encore, la victoire sur le péché et la mort par sa Pâque. Sur la croix, le Christ a pris sur lui tout le poids du mal et a enlevé le péché du monde, dont la maladie n'est qu'une conséquence. Par sa passion et sa mort sur la croix, le Christ a donné un sens nouveau à la souffrance. Elle peut désormais nous configurer à lui et nous unir à sa passion rédemptrice. Nous pouvons entrer dans sa mission de sauveur, mystérieusement. Le Christ invite ses disciples à le suivre en prenant à leur tour leur croix. En le suivant, portant notre croix, nous acquérons un nouveau regard sur la maladie, sur les malades, sur la souffrance. Alors, dès le tout début du ministère de Jésus, il fait participer ses premiers disciples à ce ministère de compassion et de guérison. Dès le premier envoi des disciples, on peut lire... Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Plus tard, lorsque Jésus apparaîtra à la résurrection, il va renouveler cet envoi aux apôtres avec ce signe de nouveau de guérison des malades. Par mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ces signes manifestent d'une manière spéciale que Jésus est vraiment Dieu qui sauve. Alors le Seigneur donne parfois des signes au travers des miracles de guérison, mais ce n'est pas systématique. Et ce n'est pas par manque de prière ou par manque de foi si la santé ne revient pas. Saint Paul lui-même évoque une écharde qu'il portait dans la chair, selon son expression. Une difficulté, une douleur, on ne sait pas trop ce que c'était. Mais il a demandé 3 fois au Seigneur de la lui ôter et le Seigneur lui a laissé cette souffrance en lui disant « Ma grâce te suffit, ma puissance se déploie dans la faiblesse. » Paul a appris que les souffrances à endurer peuvent avoir comme sens que nous complétons dans notre chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Une dimension de la souffrance qui rejoint la vie de toute l'Église, mystérieusement. Alors, lorsqu'il est face aux malades, Jésus leur demande d'avoir foi. C'est ça le chemin de la guérison. Il se sert de signes pour les soigner, pour les guérir. La salive, l'imposition des mains... La boue, les ablutions. Les malades cherchent à le toucher car une force sortait de lui qui les guérissait tous. Ce contact charnel avec Jésus, eh bien, il continue de se réaliser au travers des sacrements, justement, qui nous touchent. Jésus continue de nous toucher pour nous guérir. Cette mission de guérir les malades, de les soigner, ou en tout cas de les mettre en contact avec le Christ médecin, L'Église le réalise d'une manière particulière au travers de l'onction des malades, ce sacrement des malades. Ce sacrement est décrit assez précisément dans la lettre de Saint Jacques. Saint Jacques au chapitre 5. L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'Église. Ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Au cours des siècles, cette onction des malades a été conférée de plus en plus exclusivement à ceux qui étaient sur le point de mourir. C'est pour cela qu'on lui a donné le nom d'extrême onction. Mais à la suite du dernier concile, de la réforme du dernier concile, on le propose à nouveau de manière plus large aux malades, en cas de maladie grave. L'onction des malades n'est pas seulement le sacrement de ceux qui se trouvent à la dernière heure. Il est opportun pour tout fidèle qui commence à être en danger de mort à cause de la maladie, par suite d'affaiblissement physique ou à cause de la vieillesse. Si un malade qui a reçu l'onction recouvre la santé, il peut, en cas de nouvelle maladie grave, recevoir de nouveau le sacrement. Au cours de la même maladie, même, on peut donner plusieurs fois le sacrement. Si la maladie s'aggrave, il est approprié de recevoir l'onction des malades avant une opération importante, par exemple. Et il en va de même pour les personnes âgées dont la fragilité viendra généralement en croissant. Alors pour ce sacrement, le ministre qui va donner ce sacrement, c'est un ancien, comme disait Saint Jacques, un presbytre, c'est-à-dire au sens large un prêtre, c'est-à-dire un prêtre ou évêque, qui a le pouvoir sacerdotal, c'est lui qui peut donner ce sacrement. Alors pour célébrer ce sacrement, bien comme tous les sacrements, c'est idéalement une célébration liturgique communautaire, quand c'est possible, qui peut avoir lieu en famille, à l'hôpital ou à l'église, pour un seul malade ou pour un groupe de malades. Il est très convenable qu'elle soit célébrée au sein de l'Eucharistie, où nous célébrons la Pâque du Seigneur. Quand c'est possible, la célébration du sacrement peut être précédée du sacrement de pénitence, le sacrement de la confession, et suivie justement de la communion. Soit la communion, soit toute la célébration de l'Eucharistie, quand c'est possible. Alors, la célébration du sacrement comprend les éléments suivants que nous a décrit un peu Saint Jacques. Les prêtres de l'Église imposent en silence les mains aux malades. Ils prient sur eux dans la foi de l'Église. Cette prière en silence, justement, c'est l'épiclèse dans ce sacrement, c'est-à-dire le moment où nous appelons l'Esprit Saint. C'est le mot que nous avions déjà dans la messe, l'épiclèse, quand on appelle l'Esprit Saint. Et ensuite, les prêtres donnent l'onction avec l'huile bénite par l'évêque. En faisant l'onction sur le front et dans les mains, le prêtre dit « Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. » Alors, quels sont les effets de ce sacrement ? Bien, le grand effet qu'on demande, c'est la grâce de l'Esprit Saint, un don particulier de l'Esprit Saint. L'Esprit donne une grâce de réconfort, de paix, de courage pour vaincre les difficultés propres à l'état de maladie grave. Cette grâce est un don du Saint-Esprit qui renouvelle la confiance et la foi en Dieu et qui fortifie contre les tentations du malin, tentations de découragement et d'angoisse de la mort. Cette assistance du Seigneur par la force de son esprit veut conduire le malade à la guérison de l'âme, mais aussi à la guérison du corps, si telle est la volonté de Dieu. En outre, Saint Jacques nous dit, s'il a commis des péchés, ils lui seront remis. Il y a aussi cette grâce du pardon dans le sacrement. Un autre effet important de ce sacrement, c'est l'union à la passion du Christ, justement. Par la grâce de ce sacrement, le malade reçoit la force et le don de s'unir plus intimement à la passion du Christ. Il est d'une certaine façon consacré pour porter du fruit par la configuration à la passion de Jésus. La souffrance, conséquence du péché originel, reçoit un sens nouveau. Elle devient participation à l'œuvre salvifique de Jésus. Dans ce sacrement, il y a aussi une grâce ecclésiale, une grâce qui concerne toute l'Église, toute la communion de l'Église. Les malades qui reçoivent le sacrement, en s'associant librement à la passion et à la mort du Christ, ils apportent leur part pour le bien du peuple de Dieu. En célébrant ce sacrement, l'Église, dans la communion des saints, intercède pour le bien des malades, bien sûr, mais le malade lui aussi, à son tour, par la grâce de ce sacrement, contribue à la sanctification de l'Église et au bien de tous les hommes pour lesquels l'Église souffre et s'offre par le Christ à Dieu le Père. Pour ceux qui sont dans cette situation, il y a aussi une grâce pour se préparer au dernier passage, bien sûr. L'onction des malades achève de nous conformer à la mort et à la résurrection du Christ, comme le baptême avait commencé à le faire. Cette onction, on peut dire qu'elle parachève les onctions que nous avons reçues tout au long de notre vie chrétienne. Celle du baptême avait scellé en nous la vie nouvelle, celle de la confirmation nous avait fortifiés pour le combat de cette vie, de la vie chrétienne. Et cette dernière onction munit la fin de notre vie terrestre comme d'un rempart en vue des dernières luttes avant l'entrée dans la maison du Père. Alors à ceux qui vont quitter cette vie, ceux qui sont à toute extrémité, l'Église offre aussi, justement, après l'onction des malades, le sacrement encore de l'Eucharistie comme viatique. Nous avions souligné ce nom du viatique, la nourriture pour le chemin. Reçue à ce moment du passage vers le Père, la communion au corps et au sang du Christ a une signification et une importance particulière. Elle est semence de vie éternelle et puissance de résurrection, selon les paroles de Jésus. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Nous avons parlé plusieurs fois des sacrements de l'initiation, des trois sacrements de l'initiation, baptême, confirmation, eucharistie. Bien de la même manière, il y a comme une unité entre ces trois sacrements qui nous préparent à la vie nouvelle, le sacrement du pardon, la confession, l'onction des malades et l'eucharistie. C'est la dernière initiation, finalement, pour entrer dans le monde nouveau. Alors on peut se dire que ce sacrement des malades est un peu loin pour nous, tant que nous sommes en bonne santé, tant que nous ne sommes pas trop âgés. Mais je crois qu'il nous concerne tout spécialement en ces jours, en ce moment, car le temps du carême a voulu nous préparer à nous unir au Christ dans sa passion, c'est le but du carême. Et je rappelle que c'est un effet propre de ce sacrement des malades, de s'unir au Christ dans sa passion. En faisant des efforts de pénitence, nous avons pu expérimenter nos fragilités, nos limites, nos faiblesses. Nous reconnaissons que nous sommes tous profondément malades. Et nous nous tournons vers la passion de Jésus, dans laquelle toutes les souffrances humaines prennent un sens, car il a tout intégré dans son offrande d'amour. Par ses souffrances, nous sommes guéris. Cette citation d'Isaïe, nous allons l'entendre souvent dans la Semaine Sainte. Elle nous dit tout le mystère de la compassion de Jésus. Par ses souffrances, nous sommes guéris. Dans la semaine qui reste avant Pâques, mettons-nous auprès de Marie et de Jean, tout près de la croix. Entrons dans une profonde compassion envers le Christ. Ainsi, nous sentirons l'infinie bonté de Dieu sa tendresse envers tout homme. Nous deviendrons des témoins et des relais de cette tendresse envers ceux qui nous entourent. Et nous oserons, j'espère, témoigner de l'espérance auprès de ceux qui souffrent, car Dieu est le Seigneur de la vie. Il veut nous conduire vers la vie éternelle. C'est sa joie qui aura le dernier mot sur tout.